Bonsoir à tous. Ce soir, dimanche 12 février, nous recevons Jean Gallier et Louis-Alexandre, deux membres de la rédaction de la revue Rébellion. Et donc, ils sont également membres de l'Organisation socialiste révolutionnaire européenne, donc l'OSRE. Nous leur laissons la parole pour cette conférence. Bonsoir à tous.
Bonsoir à toutes les personnes qui sont à l'écoute ce soir. On voulait vous remercier d'être présents pour cette première pour nous, en tout cas par ce biais-là, d'Internet, pour une conférence qui portera sur, en première partie, d'une façon assez courte, pour vous justement vous donner le temps après de poser vos questions sur un peu les spécificités de notre journal, de notre démarche. Donc, en gros, on présentera d'une façon assez rapide les principales époques de Rébellion, son historique, la spécificité de sa démarche et un peu certaines choses que l'on veut justement mettre en avant pour les prochaines années. Donc je me présente, je m'appelle Louis-Alexandre, je fais partie de la rédaction du journal depuis l'origine, comme mon camarade Jean Gallier, qui est à côté de moi ce soir.
Depuis Toulouse.
Et nous allons vous présenter de façon, je pense, la plus complète possible, notre démarche. Donc, pour débuter, on peut revenir sur l'origine du journal. C'est une aventure collective qui a débuté il y a à peu près 10 ans. La première forme du journal a été un petit bulletin fait de façon assez artisanale, voilà, photocopie d'ailleurs, qui a servi de point de départ pour une réflexion collective d'un petit groupe de camarades de la région toulousaine. Ce petit bulletin est devenu à partir de 2003 vraiment une publication qui, dans sa périodicité, dans sa qualité, a toujours essayé d'être au plus près des attentes d'un lectorat qui se faisait de plus en plus important. Donc très vite, on a réussi à regrouper autour du journal des personnes venues d'horizons assez différents, mais qui avaient, disons, en commun cette volonté d'aller au-delà de certains clivages idéologiques dépassés, comme le clivage droite-gauche, ou les réflexions qu'il y avait à l'époque entre ceux qui se disaient pour l'altermondialisme ou ceux qui se déclaraient antimondialistes. Nous, on a tranché en affirmant qu'on avait une volonté collective qui allait plutôt vers une dimension socialiste, une dimension révolutionnaire et une dimension européenne. C'est-à-dire que pour nous, la révolution de demain doit passer justement par un combat pour un socialisme à l'échelle continentale européenne. Donc, à partir de là, le journal s'est construit autour de certaines idées, de certaines valeurs qu'on a essayé de mettre en place de façon de plus en plus cohérente, c'est-à-dire qu'en essayant de lier notre action à nos idées, c'est-à-dire que par exemple la publication ne met pas en avant des personnes, c'est pour ça que par exemple vous ne trouverez pas dans Rébellion de nom par rapport aux animateurs, par exemple vous ne trouverez jamais le nom de Jean Gallier ou de moi dans le journal, mais simplement des articles qui sont pour la plupart anonymes, parce que on considère que notre pensée est collective, que notre réflexion est nourrie par tout le travail que peuvent faire les camarades à travers la France, à travers l'Europe. Donc on ne se voit pas se mettre en avant par rapport à ça. C'est justement cette volonté d'action collective, de réflexion collective qui fait que le journal, depuis l'origine, se veut cet espace aussi de liberté, de libre débat, d'échange ouvert, moi on essaye, ouvert à toutes les sensibilités de la dissidence actuelle, en sachant que même si on a des idées propres, des idées socialistes révolutionnaires européennes, nous pouvons trouver, disons, à nourrir notre réflexion dans d'autres courants, dans d'autres idées, dans d'autres pensées, et sans justement avoir ce gros défaut qui est propre au milieu, entre guillemets, extrémiste, c'est-à-dire s'enfermer toujours dans des sectes idéologiques. Cela ne nous empêche pas d'être intransigeants sur certaines choses, nous affirmons sur certaines valeurs, c'est-à-dire que nous considérons que certaines alliances ne sont pas possibles, que certaines démarches modératrices vont à l'encontre des intérêts de la cause qu'ils défendent, et qu'au contraire, il faut affirmer une ligne claire, une ligne idéologique qui soit définie sur des bases saines, sur des bases révolutionnaires. Voilà. Donc, la démarche de rébellion, à partir de là, a constitué justement un réseau de diffuseurs, de camarades, qui peuvent écrire, qui peuvent participer des traductions, faire naître ce que nous avons toujours voulu mettre en place, c'est-à-dire une communauté militante, c'est-à-dire des personnes qui s'impliquent, qui s'engagent, qui vont de l'avant. Parce que nous considérons à l'heure actuelle le gros souci de la sphère dissidente, c'est d'être, pour la plupart, souvent dans l'abstraction, dans la virtualité. Nous, on veut vraiment que les personnes qui s'engagent aujourd'hui dans un combat contre le système prennent conscience que leur principal devoir est d'être responsable, d'être autonome et d'être libre. Mais ces trois axes doivent reposer justement sur cette volonté d'être capable de prendre sa destinée en main, d'être porteur d'un idéal, porteur d'un engagement. Et on n'insistera jamais justement sur cette notion d'engagement, c'est-à-dire que l'engagement, c'est la prise de conscience de son devoir, de ce que les axes que nous faisons et les idées que nous défendons impliquent d'être en phase avec, de ne pas forcément professer des idées que l'on ne vit pas, c'est de mettre en adéquation sa vie avec ses idées. Donc à partir de là, notre démarche au sein du journal, donc je vous ai expliqué un peu notre façon de fonctionner, c'est-à-dire d'être de façon concrète une communauté militante, une communauté de pensée, se développe aussi par la création d'un réseau de diffusion indépendant, parce qu'on insiste beaucoup sur ça. Rébellion est une revue indépendante, elle ne dépend d'aucun parti, d'aucune structure financière, elle ne dépend pas de la publicité. Elle vit grâce et pour soutenir une communauté militante, un idéal. Donc, on ne compte que sur nos propres forces et on le réaffirmera toujours. C'est que ce qui est le propre de Rébellion, c'est son indépendance et son autonomie. Donc, tout cela fait que dans notre démarche, on a essayé de mettre en place justement un réseau de diffusion indépendant. Et pour que ce réseau vive et perdure, on l'a construit autour justement d'une démarche militante, c'est-à-dire que la plupart de nos, la totalité même de notre lectorat est aussi un lectorat militant, c'est-à-dire que quand vous lisez Rébellion, vous ne lisez pas forcément une publication commerciale, vous ne lisez pas un journal que vous aurez pu trouver comme ça dans un kiosque d'une gare ou dans un kiosque à journaux d'une ville. Non, c'est vous lisez le produit une réflexion révolutionnaire qui se veut révolutionnaire. Donc, je pense que la démarche est justement en rupture avec beaucoup de choses, avec un certain attentisme. C'est au contraire, c'est notre démarche, c'est d'être actif, d'être autonome. Donc, très vite, cette petite publication que je vous ai expliquée au début, qui était assez artisanale, s'est développée, est devenue une publication qui a pu à jouer justement ce rôle d'aiguillon idéologique pour certaines mouvances. Donc nous sommes fiers justement d'avoir pu toucher diverses personnes qui ont compris notre démarche et qui ont pu justement s'en nourrir pour évoluer, pour s'enrichir de nouveaux horizons et de nouvelles réflexions politiques. Donc à partir de là, la revue Rébellion, donc c'est professionnalisé d'une certaine façon parce que nous avons essayé de mettre en place une maquette de plus en plus professionnelle. Donc ceux qui connaissent peut-être déjà le journal ou qui l'ont déjà eu en main peuvent l'avoir déjà constaté. C'est-à-dire que nous avons amélioré notre diffusion aussi, notre qualité d'impression et d'autres choses par rapport à la forme du journal. Mais sans jamais avoir varié dans le fond, au contraire, je pense que au cours des 10 ans qui se sont écoulés, nous avons approfondi beaucoup d'axes idéologiques, nous avons approfondi certains aspects de notre réflexion, nous avons nourri de nouveaux apports, et à chaque fois, tout cela a fait que Rébellion est à l'heure actuelle un mouvement de pensée qui va dans un sens pour positif justement pour ce qu'on peut appeler une sphère dissidente, c'est-à-dire que aujourd'hui les gens se retrouvent justement à rupture avec le système, souvent de manière, disons, un peu anarchique, dans le sens que tout le monde voilà, ne vient pas du même horizon politique, ne vient pas forcément des mêmes familles politiques, mais vont dans ce sens qu'ils ont compris était en train de nous mener à notre perte, donc que la société était en train de s'effondrer et de sombrer dans la barbarie à partir justement d'une désintégration de ce système, qui est la désintégration du système capitaliste, et donc qui essaie de trouver des solutions, de construire des alternatives. Et je pense que Rébellion voilà, se trouve dans cette sphère dissidente et cherche par voilà, trouver avec d'autres les solutions à apporter à cette crise que nous traversons. Donc notre publication justement s'est ouverte pour cela à des personnalités aussi diverses que Alain de Benoist, Michel Drac, que des personnalités comme Michel Maffezoli. Nous avons aussi reçu dans nos colonnes des personnes aussi diverses que Alain Soral aussi lors de deux entretiens. Et à chaque fois, nous avons toujours placé notre indépendance en avant, mais aussi notre colonne à des personnes différentes pour permettre justement à ce qu'un débat se crée et essayer de, voilà, de partager des idées et de servir de point de convergence des diverses tendances du système, en opposition au système. Donc aujourd'hui, nous en sommes au numéro 51 du journal, bientôt 52, vu qu'il va sortir dans les prochains jours. Et nous avons toujours cette volonté de progresser, de nous enrichir aussi d'autres démarches, d'essayer aussi de partager notre vision des choses. Donc, pour vous permettre un peu d'échanger avec nous ce soir, on va vous passer la main aussi pour vous poser, pour que vous puissiez poser vos questions sur... Voilà, sur le journal, sur nos idées, les thèmes que nous défendons, et aussi avoir votre avis un peu peut-être sur si certains ont déjà lu la publication Rébellion, ben, sur le journal, et voilà, nous enrichir ce soir d'avis et d'apports différents. Donc ben, je vais repasser la main à Anthony ou aux personnes qui sont là pour justement pour qu'on puisse débuter les questions-réponses.
Merci. Alors, on remercie donc Louis-Alexandre et Jean Gallier, qui est à ses côtés, qui interviendra aussi un peu plus tout à l'heure, sans doute, de cette introduction donc au journal. Donc, évidemment, l'intérêt d'une émission comme celle-là, après une introduction aussi concise, effectivement, c'est d'avoir un échange plus important avec les auditeurs. Donc, transmettez-nous vos questions comme d'habitude. Alors, d'abord, tu disais, Louis, que vous étiez arrivé au numéro 48 de la revue, et que depuis environ 10 ans, vous créez la revue. Alors, vous avez créé la revue, alors peut-être déjà des choses très prosaïques qui peuvent intéresser nos auditeurs, le prix peut-être de la revue, et puis, comment dire, la fréquence également de la publication. Ça pourrait peut-être être intéressant. Merci.
Donc oui, les aspects disons techniques du journal. Donc Rébellion est sorti, aujourd'hui on en est au 51 numéro. Donc au cours des 10 ans, le prix n'a pas beaucoup évolué parce qu'il est toujours 4 euros. Parce que par notre démarche, on a toujours voulu justement que les gens qu'on voulait toucher puissent avoir le journal de la façon la plus facile possible. Donc c'est pour ça qu'on a maintenu les prix les plus bas. C'est-à-dire que on essaye de justement que les personnes qui veuillent nous lire puissent le faire et ne soient pas arrêtées par le prix. Donc forcément, on a mis en place un système d'abonnement. Donc on sort à peu près on sort tous les deux mois.
C'est un bimestriel.
Voilà.
Bimestriel.
C'est un bimestriel, donc j'en gagne.
Oui, ça va être tenu bimestriel, fonctionnant.
Donc ça fonctionne et cette démarche justement autour du bimestriel nous permet justement de suivre au plus près l'actualité sans être vraiment être prisonnier de l'actualité parce que des fois on peut justement aller au-delà et évoquer des sujets qui ne sont pas dans l'actualité mais justement qui peuvent voilà être des sujets souvent en avant sur l'actualité. Donc voilà, on avait choisi cette possibilité d'avoir tous les deux mois, un espace d'expression pour nos idées, et on s'y est maintenu. Donc, en gros, si vous voulez vous abonner à Rébellion, si vous êtes par exemple jeune étudiant ou lycéen ou chômeur, c'est 15 euros pour ce numéro. Si vous êtes dans le cadre déjà d'être salarié, ben c'est 20 euros. Voilà.
Merci. Alors, on terminait avec des aspects prosaïques, mais là, sans vous demander le prix lui-même. Mais disons, quel est comment dire, le lectorat que vous arrivez à toucher, la clientèle que vous avez naturellement. Alors, j'avais dit tout à l'heure, c'est des gens d'horizons différents. Est-ce que vous touchez davantage plutôt le milieu travailleur, jeune travailleur, ou plutôt le milieu ouvrier, le milieu étudiant? Ça serait intéressant. Merci.
Ben, disons qu'on avait fait deux enquêtes au cours de l'histoire du journal, à peu près il y a 5 ans. Et actuellement, on a une petite idée par rapport à notre lectorat. En gros, pour dire qu'il représente toutes les tranches de la société. C'est vrai que on peut aussi bien avoir des personnes qui sont jeunes travailleurs, c'est-à-dire, je pense à des camarades même que je connais bien, qui, par exemple, sont plombiers ou travaillent dans le bâtiment, que dans certains services de la fonction publique hospitalière. Et aussi, on peut avoir des personnes à l'autre bout, des universitaires qui nous lisent aussi. Donc, il n'y a pas un lectorat type sociologiquement, disons, du journal, mais c'est plutôt dans la démarche personnelle. C'est des personnes souvent anticonformistes qui ont que faire, disons, des normes qu'on essaie de leur imposer, qui sont dans une démarche de dissidence, une démarche révolutionnaire, et qui cherchent justement à alimenter cette démarche par une réflexion que nous, on propose justement de rupture avec le système. Et dans ces électorats, on peut trouver aussi bien des personnes, aussi bien d'horizons politiques très, très très différents, donc, d'ailleurs, et puis des personnes qui viennent justement de l'ultra-gauche, qui peuvent venir aussi de la mouvance du Grèce. On a beaucoup de camarades aussi qui ont évolué ou qui évoluent toujours dans la mouvance d'égalité et réconciliation. On a aussi quelques cas particuliers, disons, quelques camarades qui sont, disons, anarchistes individualistes, végétariens. On a des personnes assez atypiques. Et voilà, mais c'est le reflet justement, je pense, de ce qu'on essaie d'expliquer dans notre introduction, c'est-à-dire que la rébellion est un peu un point de rencontre de cette grande sphère de la dissidence actuelle qui refuse le système capitaliste, qui refuse le jeu politique actuel, qui ne se retrouve pas dans les alternatives qu'on propose, dans les diverses, disons, extrême droite, extrême gauche, mais qui essaye au contraire de briser les consensus idéologiques, qui cherchent dans des auteurs comme Alain de Benoît, comme Dan Michéa, comme Dan Michel Drac, des pistes de réflexion. Et nous, justement, on est fiers d'avoir justement ces lectorats, parce que ça nous apporte beaucoup aussi pour nous, parce que ça nous apporte cette vivacité que l'on peut avoir, cette force vitale qui est en train de traverser beaucoup de courants actuellement. Et au-delà de l'âge, au-delà de la profession, au-delà de l'origine politique, va dans le sens d'une rupture avec le système. Et par exemple, c'est vrai que dans notre, on a des fois des courriers où on a aussi bien un jeune lycéen qui nous écrit parce qu'il a trouvé un de nos tracts diffusé dans son lycée, que par exemple un ancien maoïste qui a été à la gauche prolétarienne et qui beaucoup d'années plus tard, trouve dans notre journal des éléments de réflexion qu'il trouve intéressant et qui veut justement partager avec nous son expérience. Voilà.
Merci. Alors, on va devoir, heureusement, pourrait-on dire aussi, faire un petit peu de définition, enfin, vous demander vos définitions des termes que vous employez, puisque effectivement, donc vous dirigez l'organisation socialiste révolutionnaire européenne, donc ça fait déjà plusieurs mois à définir. Alors, dans un premier temps, il y a plusieurs personnes là plusieurs auditeurs qui m'ont demandé que vous précisiez votre conception du socialisme. Alors, je précise aussi qu'il est question de ce sujet, c'est-à-dire de la définition par rébellion du socialisme. Il en est question dans les émissions de Méridien Zéro, auxquelles vous pouvez vous reporter. Mais on se permet de vous reposer la question, si ça ne vous dérange pas, de repréciser votre approche du socialisme. Merci.
Justement, je vais en profiter parce que, vu que Jean Gallier est là, c'est lui qui va s'y coller pour une fois. Et il va donner un peu la définition du socialisme vue par la revue Rébellion.
Notre définition du socialisme n'a rien de très original. Il faut la reprendre pour ce qu'elle est dès son origine, c'est-à-dire d'abord un mouvement qui s'inscrit dans la critique du système capitaliste, tout d'abord, et qui propose de dépasser les contradictions du capitalisme. Le socialisme, c'est la socialisation des moyens de production. Je prendrai une définition très simple. Il faut quand même revenir à l'essentiel, pas tourner autour du pot, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a une appropriation plus collective, communautaire, des moyens de production et d'existence des travailleurs, par les travailleurs, de leurs conditions d'existence. Bon, c'est la définition la plus générale, la plus générique. Alors ensuite, il ne faut pas demander un modèle à plaquer mécaniquement sur la réalité. Les gens s'imaginent qu'on peut décrire un monde socialiste. Alors ça, c'est véritablement de l'utopie. On ne peut pas donner un modèle tout fait. Les gens s'imaginent qu'on pourrait, par exemple, leur décrire comment sera la rue dans laquelle ils vont vivre dans le monde socialiste. Cela n'a aucun sens. Le socialisme, c'est un mouvement né à partir du capitalisme, c'est-à-dire à partir des contradictions du capitalisme et ces contradictions qui sont insurmontables. On le voit de nos jours avec la crise profonde qui s'accroît, qui s'amplifie, qui s'intensifie de plus en plus, qui rend les conditions d'existence du monde du travail de plus en plus hallucinantes. On le voit dans tous les pays européens, mais ne parlons pas des autres pays du monde où c'est parfois bien pire. Donc c'est à partir de ces contradictions qu'a été formulée évidemment l'idée qu'on pouvait dépasser ces contradictions, donc on pouvait penser à notre existence, à notre mode de vie. Alors bon, comme le capitalisme c'était quand même l'appropriation privée des moyens d'existence de l'humanité par une minorité, c'était ça le départ, que cela s'est approfondi, a pris des formes diverses au cours de l'histoire bien sûr, sans entrer dans les détails, enfin, on revient quand même toujours à l'essentiel, à cette idée que je donnais au début de l'intervention. Donc pour nous, il n'y a pas de description utopique du socialisme qu'on pourrait donner. C'est d'abord s'ancrer dans une critique radicale du système capitaliste, afin de proposer une alternative que les travailleurs doivent construire peu à peu, donc en se fixant des objectifs politiques pas à pas, d'abord en s'unifiant dans les luttes, en contestant l'hégémonie politique de la classe dominante, en s'attaquant frontalement au pouvoir politique de la classe dominante à travers ces pouvoirs de coercition que sont l'État capitaliste, en particulier, il faudra bien arriver à l'affrontement direct avec les forces du capital. Et donc à partir de là, effectivement, au cours de l'histoire du monde ouvrier, diverses expériences ont été tentées. Enfin, elles ont quand même pour point commun, l'idée que on le voit très bien par exemple à partir de la Commune de Paris, l'idée qu'il était possible de s'organiser d'une autre façon, de vivre d'une autre façon, et donc de tenter ce qui serait une appropriation collective des moyens d'existence.
Ah, très bien, merci pour la définition. Moi je souhaiterais insister peut-être sur un autre terme. Vous définissez comme revue avant-garde révolutionnaire européenne. Donc, que recoupe le terme, l'adjectif européen ? Qu'est-ce que ça exclut ? Qu'est-ce que ça inclut ? Pourquoi européen et pourquoi pas rien ? C'est-à-dire avant-garde révolutionnaire tout court, voire avant-garde révolutionnaire française. Donc, voilà. Pourquoi européen, s'il vous plaît ?
Alors, européen parce qu'au début, on s'est dit qu'on allait parler de ce qui nous concerne au plus près, c'est-à-dire que nous vivons en Europe, évidemment, que nous sommes dans un système qui s'est organisé politiquement avec des institutions, si on peut appeler ça, un organe de coercition plutôt, qu'est l'Europe technocratique de Bruxelles. Donc nous vivons une époque où effectivement il y a de grands ensembles géopolitiques qui sont en train de se former ou de se déformer, je ne sais pas parfois le mot qu'il faudrait employer. Donc il y a quand même l'idée européenne de toute façon qui s'est concrétisée à travers les institutions que nous connaissons. Bon, Donc cela n'exclut absolument pas le côté internationaliste du mouvement socialiste, puisque nous sommes solidaires de toutes les luttes dans le monde qui s'érigent contre les forces du capitalisme. Mais il est évident que nous connaissons mieux la situation en France et en Europe que, par exemple, la situation en Chine, puisqu'il y a bien des luttes de la classe ouvrière en Chine contre le système actuel, on ne sait plus trop ce qu'il est. Par exemple, il y a des luttes ouvrières en Afrique, il y a des luttes ouvrières en Amérique du Sud, donc nous sommes solidaires à tous ces mouvements d'opposition au système capitaliste. Mais bon, nous parlons de ce que nous connaissons le mieux, le plus directement. Après, deuxièmement, il y a quand même l'idée que, de toute façon, quand on tente quelque chose, un processus révolutionnaire, bon, on part d'où on est, et nous pensons donc que s'en tenir à la France seule, bon, c'est bien, mais c'est insuffisant. Nous sommes dans une situation où les grands ensembles géopolitiques sont, comme je le disais tout à l'heure, en train de se former, de se cristalliser, de se reformer, de se déformer, etc. Donc il y a une lutte à l'échelle mondiale qui se fait quand même à partir de grands axes géopolitiques. En conséquence de quoi, nous pensons que, bon, notamment au cœur, un des cœurs quand même importants historiquement et encore actuellement du capitalisme, c'est le capitalisme européen. Bon, c'est aussi là le lieu de naissance quand même de l'idée moderne du socialisme, sa formulation, même si ensuite elle a été reprise par ailleurs dans d'autres civilisations, dans d'autres cultures, et adaptée aux conditions qui ne sont pas les conditions européennes. Bon, c'est donc là quand même que le socialisme a une longue histoire, une longue tradition de lutte, et nous aimerions effectivement, ça c'est quand même un projet, que notre mouvement puisse avoir une certaine résonance dans les pays de l'Europe, des pays qui sont proches de nous géographiquement, n'est-ce pas? Donc il faut quand même tenir compte de ces conditions-là, afin de créer un mouvement socialiste qui est une ampleur, un socialisme révolutionnaire qui est une ampleur donc suffisante pour pouvoir faire quand même commencer à faire basculer la situation à un moment donné où justement les luttes vont se cristalliser, se radicaliser. Voilà pourquoi nous parlons du socialisme révolutionnaire européen, non pas parce que nous exclurions le reste de l'humanité, ce serait un grave contresens sur nos positions.
Merci de cette réponse. Alors justement, puisque vous parlez d'Europe, donc là on aurait bien compris, en tout cas si on résume les deux positions donc sur le mot socialiste et sur le mot européen, qu'il ne s'agit pas du tout du Parti Socialiste ni de l'Union Européenne, loin s'en faut. Mais justement sur la conception de cette grande Europe, de ces conceptions révolutionnaires qui regardent au-delà du territoire français, on aurait aimé savoir sur quels auteurs vous basez, puisque un auteur, je crois, a théorisé beaucoup ça, c'est Jean Thiriard, que je ne connais pas très bien. Hein. Mais il me semble que les auteurs, hormis également les auteurs du Grèce qui ont réfléchi sur ces questions, que les auteurs à avoir théorisé une sorte de révolution politique à l'échelle européenne ne sont pas légion en réalité. Est-ce que vous pouvez rappeler voilà quelles sont vos sources sur ces sujets? Merci.
Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, bon, il y a la théorie de Jean Thiriard sur la Grande Europe. Bon, d'abord formulée dans un contexte historique qui n'est pas le même que le nôtre, à l'époque de l'existence des deux blocs. Alors, je vais pas revenir là-dessus. La conception de Thiriard, dans le fond, n'est pas une conception très originale. Je dirais que c'est une... Bon, je vais un peu schématiser. Mais c'est une position intéressante par bien des aspects, par son réalisme géopolitique, par la lecture de grands auteurs de la philosophie politique, en particulier de Machiavel et de Hobbes. Bon, il y a des aspects très intéressants dans l'œuvre de Thiriard. Il y avait une connaissance aussi chez Thiriard de la géopolitique à une époque où c'était pas tellement la mode. Donc ça, ce sont les aspects intéressants de l'œuvre de Thiriard. Après, par rapport aux filiations, il me semble que les travaux de Thiriard sont, dans la perspective qu'il a développée, sont beaucoup plus pauvres que la perspective ouverte par les nationaux bolcheviques allemands des années 20 et 30. Alors, en particulier, je pense à Ernst Niekisch, qui, lui, quand même un pionnier dans la vision géopolitique, puisque alors, dans des conditions encore une fois très différentes des nôtres, il avait pensé à l'unité de lutte entre le peuple allemand prolétarisé et à l'époque ce qu'était l'URSS qui venait de faire sa révolution. Deuxièmement, donc il voyait cette ouverture vers le cœur de l'Eurasie. Hein. C'était la perspective donc que les peuples jeunes, comme les peuples allemands, vont pouvoir faire la révolution socialiste en s'appuyant sur les forces révolutionnaires de l'URSS à l'époque. Ça, c'était l'idée de Mikisch. Et deuxièmement, ce qu'il y a d'intéressant également chez Mikisch, c'est qu'il n'y a pas du tout chez Thiriard, ce qui fait que Thiriard n'est pas un national-bolchevique au sens historique du terme, c'est que Mikisch a une perspective dans laquelle il inscrit évidemment au cœur la lutte de classe. Donc Mikisch connaissait très bien l'œuvre de Marx, il était lui-même issu de la social-démocratie, ce qui était le grand parti social-démocrate avec toutes les tendances qui le traversaient avant la Première Guerre mondiale. Cette perspective révolutionnaire, cette lecture de Marx que connaissait bien Mikisch, ne se trouve pas du tout chez Thiriard, qui ne semble pas avoir, dans le fond, lu réellement Marx. Donc, on ne peut pas dire que nous soyons les héritiers de Thiriard, mais beaucoup plus de Mikisch. Quant aux Grèces, il y a effectivement une réflexion sur l'Europe, sur le fédéralisme européen, sur la culture européenne, qui est intéressante bien entendu, à des égards.
Merci de cette réponse. Je vais laisser la parole à Anthony qui avait une question d'auditeur, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, je vous soumets la première question d'auditeur. MacDav, donc, qui vous demande « Avez-vous des camarades grecs ou des échos de la situation sociale réelle là-bas »
Disons qu'on n'a pas vraiment d'infos que vous ne pourriez pas avoir sur la situation en Grèce. On n'a pas de rapport à des organisations grecques pour l'instant. Donc, d'ailleurs, on en cherche, mais pour rapport à la situation en Grèce, on voit se mettre en place une situation de rupture entre justement une oligarchie qui sert les intérêts du capitalisme mondialiste et un peuple à qui on demande tous les sacrifices possibles pour sauver le système alors qu'ils ne sont pas responsables de la crise actuelle. Donc, on peut dire que la situation grecque et une préfiguration de ce qui risque d'arriver dans d'autres pays d'Europe, et en particulier de l'Europe latine, c'est-à-dire Portugal, Espagne, et Italie
et bientôt,
la France. Donc on suit de très près la situation là-bas, on s'intéresse à beaucoup de documents qui peuvent être traduits en français, et Jean-Galli veut ajouter peut-être quelque chose par rapport à ça. Mais
alors avec une différence, c'est que là-bas il y a un parti communiste qui n'a pas trahi.
Voilà. Et aussi
qui ne s'est pas vendu à la case dominante, contrairement aux autres.
La grande différence, c'est là où le niveau est peut-être plus haut dans les revendications.
Et pareil au Portugal.
Et pareil dans le Portugal, la combativité plus importante, c'est que il y a dans l'opposition justement à cette oligarchie des organisations qui ont gardé leur structure politique, qui ont gardé même en étant minoritaire, les partis communistes en Grèce et au Portugal ne sont pas majoritaires dans la population, mais ils sont assez forts dans le mouvement pour insuffler justement des orientations révolutionnaires, des cohérentes, offensives. Et c'est ça justement qui manque en France à l'heure actuelle et dans d'autres pays. C'est pour ça par exemple qu'en Espagne ou en Italie, les partis communistes ont été liquidés, et on le voit très très bien. Par exemple, avec tout ce qui s'est mis en place en Italie, justement à la fin des années 90, avec l'éclatement du Parti communiste, c'est en vérité, on a liquidé toutes les oppositions possibles à la mondialisation et au rouleau compresseur de la mondialisation. Et d'ailleurs, pour l'Italie, ce qu'on peut noter aussi, c'est que justement, dans ce vaste mouvement de recomposition politique, le Parti communiste a disparu, mais aussi le gros mouvement néo-fasciste de l'époque était MSI, a justement aussi éclaté en multiples tendances. Donc on peut se dire que justement les potentielles oppositions au système ont été liquidées de façon très hâtive par le système dans ces pays-là. Donc pour revenir justement à la situation globale en Grèce à l'heure actuelle, c'est on peut voir se mettre en place, ils ont une opposition politique qui s'est construite de, justement sur une réaction populaire, une indignation populaire, et qui justement a un potentiel de passer d'une révolte à une révolution. Et c'est ça l'intéressant à suivre, et peut-être qui préfigure justement l'avenir pour d'autres pays d'Europe, c'est justement ce passage d'une simple indignation, d'une simple révolte, à des conditions révolutionnaires. Et justement, c'est là où on insiste sur ça aussi, c'est que quand Rébellion essaie justement de mettre en place des réseaux, de mettre en place des cercles militants et tout ça autour de lignes politiques claires, c'est justement pour constituer aussi en France et dans l'espace francophone, mais c'est juste ce bloc militant qui permettrait d'insuffler une direction vraiment offensive et vraiment révolutionnaire à la simple contestation que l'on connaît actuellement. Donc je vais voir si d'autres personnes ont des questions.
Oui, d'accord, merci beaucoup de votre réponse. Alors effectivement, il y a des questions qui existent, enfin qui tournent autour de la notion que vous faites d'humour révolutionnaire. Alors c'est vrai que en général, pas tout le temps évidemment, mais en général, ce sont des mouvements classés à l'extrême gauche, avec toutes les réserves évidemment qu'il faut avoir par rapport à ces classifications, qui sont sans doute désuètes aujourd'hui. Je pense qu'on est d'accord à peu près là-dessus. Disons que votre conception de la révolution, bon, alors le mot révolution, je crois lui-même, il a une notion au départ, si on regarde au sens temporel, au sens planétaire, il a un sens plutôt de retour en arrière, mais au sens des planètes. Mais alors au plan, des sociétés, des évolutions des sociétés, on aurait aimé savoir quel est votre point de vue, c'est-à-dire souhaitez-vous une révolution qui débouche sur un retour à des traditions, par exemple ce que certains appellent la révolution conservatrice, ou alors souhaitez-vous un monde nouveau qui se détache des choses précédemment vécues et précédemment installées. Merci.
Oui, alors c'est vrai, le mot révolution, c'est un concept astrologique et astronomique. Donc on revient en faisant un cercle sur un point de départ. Bon, bien sûr, ça c'est le sens ancien. Bon, le sens, pour simplifier, bon, le sens moderne, les révolutions qui ont eu lieu dans le monde moderne, qui étaient des façons de combattre politiquement, de renverser politiquement, on va dire un tas de choses. Alors il y a eu des révolutions politiques avec des portées sociales mutées, il y avait des révolutions qui avaient une dimension à la fois politique mais avec des finalités sociales. Bon, c'est le cas justement de tous ces mouvements qui sont ceux du socialisme révolutionnaire, du communisme, donc qui ne sont pas que des révolutions politiques, mais des finités sociales. Donc nous héritons de ce sens aussi. Nous ne sommes pas très originaux concernant cette question. Ce que nous voulons, ce que nous entendons par révolution, alors peut-être les mots sont difficiles à trouver d'autres, mais pour nous la révolution c'est le renversement du système capitaliste, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire la création d'un nouveau type de communauté humaine, pour dire les choses différemment. La communauté humaine, véritablement, pas celle du capital, la communauté du capital c'est l'argent, c'est la communauté de l'argent, comme disait Marx. Le lien social c'est la valorisation. C'est le processus de valorisation du capital qui se fait à travers la circulation des marchandises, etc. Alors, je ne vais pas me lancer dans toutes les complexités de la critique de l'économie politique chez Marx, il faut quand même là dire l'essentiel. Donc, pour nous, c'est une forme de communauté où, enfin, bon, l'humanité va peut-être pouvoir sortir de cette dynamique de la domination du monde marchand, pour ça. Dire ça pour se faire comprendre d'un maximum de personnes. Voilà. Alors ça ne veut pas dire bon que nous dédaignons, nous rejetons les traditions, mais bon, lesquelles, il faut se mettre d'accord aussi, qu'est-ce que c'est que la tradition. Bon, je pense qu'on a beaucoup schématisé, c'est comme ce vocabulaire, bon, pesant et pénible de la droite et de la gauche dont on n'arrive pas à se défaire. Bon, voilà, là aussi, je suis pas original en disant que Marx ne se disait ni de droite ni de gauche. Mais bon, ce sont des concepts totalement dépassés, inutiles de nos jours. Soit on est du côté du capitalisme, soit on essaie d'en sortir, quoi. C'est ça. Alors, bon, les traditions, ben oui, il y a probablement des valeurs à conserver. Je vois pas ce qu'on aurait à bouleverser là-dedans. C'est vrai que le capitalisme, en un sens, il est révolutionnaire, mais dans le sens qu'il subvertit. Il subvertit ce qu'il y a d'humain, ce qu'il y a encore d'humain dans le monde. Donc, il y a un processus révolutionnaire du capitalisme qui est, que j'appellerais plutôt un processus de subversion et d'inversion des valeurs. Et là, il est très très fort, le capitalisme, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a des alliés précieux dans l'extrême gauche du capital, le gauchisme, etc. Donc, ces gens-là servent à cela. Ils servent à cela. Donc nous, nous ne sommes pas du tout, vous l'avez compris, je pense, dans cette perspective. Nous, la réelle, la véritable révolution, ben, c'est la formation de la communauté humaine. Voilà. C'est d'ailleurs comme cela que Marx définissait le socialisme.
Alors pour faire suivre justement cette intervention, notre auditeur qui s'appelle Louis vous demande quelles sont les différences que vous faites entre le libéralisme et le capitalisme, et si vous voulez vous donner votre avis sur ces deux notions, peut-être plus sur le libéralisme.
Alors, là aussi, il y a des emplois multiples du terme libéralisme. Bon, le terme libéralisme, bon, somme toute, il a une origine philosophique au XVIIIe siècle, qui est liée à certains courants aussi de l'économie politique. Bon, par exemple, Adam Smith, c'est un philosophe libéral, c'est un penseur économique aussi libéral, n'est-ce pas? Donc le libéralisme, c'est, dans un premier temps, c'est un peu l'utopie du capitalisme, c'est-à-dire l'idée que l'intérêt égoïste de chaque individu, la fameuse métaphore de la main invisible, permettrait de réaliser le meilleur des mondes possible, hein, l'harmonie par le laisser-faire des intérêts égoïstes et particuliers de chacun. Ça, c'est le libéralisme. Le capitalisme, lui, c'est le système en tant que tel qui, on va appeler ça le système en tant que tel, de la domination du capital. Hein, du capital, c'est-à-dire ce qui est fondé sur un rapport social dont je parlais tout à l'heure, qui est le rapport social de classe, et qui permet donc, en fait, ce qui est la finalité donc, du capital, qui est la valorisation, c'est-à-dire la valorisation du capital. Hein, ça. Donc le capitalisme est le système dans son ensemble. Alors ce système capitaliste, il peut tour à tour prendre des formes autoritaires, tyranniques, dictatoriales, libérales, quand ça lui chante. Alors actuellement, donc, puisqu'il s'agit de liquider les quelques résistances qui restent de la classe ouvrière, de ce que les gens ont plus ou moins réussi en se battant à conserver de dignité humaine et de niveau à peu près correct d'existence, avec certaines sphères publiques, etc. Il s'agit de liquider, donc on s'inspire de l'idéologie libérale. Dans d'autres contextes, le capitalisme s'est inspiré d'autres idéologies, il s'agit de justifier ses choix par d'autres idéologies, des idéologies qui peuvent être des idéologies dictatoriales, parce qu'il s'agit de faire la guerre, de la guerre impérialiste, ben, les libertés, évidemment, libertés formelles disparaissent.
Merci de votre réponse. Je laisse la parole à un auditeur.
Bonsoir. Déjà, merci d'être venu pour cette conférence. C'est toujours appréciable d'avoir des gens qui viennent parler ici, puisque tout le monde n'accepte pas les invitations. Moi, je voulais revenir très rapidement sur cette idée sur l'idée de révolution et notamment d'organisation, hein, puisque savoir comment on organise les gens, c'est quand même intéressant. Et en vous écoutant, j'ai l'impression. Vous avez parlé notamment d'écrire pas mal d'articles, de publier beaucoup d'articles anonymement, etc., puisque les idées sont mises en avant et non pas les personnes. Et moi, j'aimerais vraiment vous demander si vous croyez vraiment, parce que je suis curieux, pouvoir pousser un mouvement révolutionnaire, alors, avec tous les guillemets du monde, qui ne soit basé que sur... une sorte de mouvement populaire, c'est-à-dire qui n'est pas réellement de leader, puisqu'on, de façon assez militante, vous ne souhaitez pas mettre une personnalité ou une autre en avant. C'est-à-dire, en fait, oui, voilà, une révolution un petit peu organique, qui vienne du bas et qui n'est pas vraiment de chef. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez réellement que ça, ça peut marcher? Voilà.
Oui, alors, il faut envisager ces questions d'un point de vue concret et à une période déterminée de l'histoire et de l'organisation en question. Donc, nous serions particulièrement délirants si nous pensions que nous sommes en train de conduire la révolution, de mener les masses, etc., vers la révolution, puisque nous sommes tout à fait minoritaires et nous ne prétendons pas être un parti de masse. Donc, ça nous paraîtrait quand même assez farfelu de s'ériger un chef de la classe ouvrière et de désigner un personnage charismatique qui serait incarné, qui pourrait incarner le mouvement révolutionnaire. Donc, la question que vous posez ne peut recevoir une réponse qu'à partir du moment où un mouvement réel existant de lutte sociale et d'affrontement politique prendrait une vigueur dont on ne soupçonne pas l'existence de nos jours, anesthésiés que nous sommes, en particulier en Europe occidentale. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faut répondre. Pour l'instant, eh bien, nous conduisons une réflexion, oui, qui est l'expression un peu, alors tout en restant modeste, dans l'expression d'un cerveau collectif. Donc l'organisation n'est d'ailleurs pas un parti, ce n'est qu'une organisation, hein, ce n'est pas le parti historique au sens révolutionnaire du terme. Hein. Nous ne sommes pas, même pas encore un parti formel, nous sommes une organisation, nous organisons, voilà. Nous avons des contacts cohérents, voilà, basés sur certains critères, certains principes. Donc nous essayons d'organiser quelque chose et de le conduire de manière assez collective. Alors après, quand on a montré son museau sur les écrans, bon, nous, on n'a pas vraiment pas l'intérêt. Nous essayons de diffuser des idées, de faire que ces idées s'emparent, peut-être pas des masses dans les médias, mais du moins s'emparent déjà de l'esprit de certaines personnes et de certains collectifs, peut-être certaines associations, ça fasse son chemin à travers des organisations, d'autres organisations ou chez des individus isolés, et qu'ensuite ces gens-là puissent en tenir compte et peut-être justement s'organiser avec nous et produire quelque chose qui sera un mouvement de plus grande ampleur. Mais nous ne serons pas nous-mêmes la cause créatrice du mouvement historique. Ça c'est une vision totalement fétichiste et idéaliste de l'organisation. C'est quand la classe ouvrière se met en marche qu'elle crée ses propres organes de lutte. Alors à partir de là, effectivement, il y a des organisations, des groupes ou des personnalités qui se manifestent plus ou moins selon les circonstances. Ben là, nous verrons bien.
Et pour ajouter quelque chose, je pense que ce que Rébellion essaie de faire, c'est aussi de montrer aux gens qu'ils peuvent être acteurs, qu'ils n'ont pas à attendre un leader ou un gourou ou un messie pour intervenir dans le combat politique. Chacun d'entre nous, nous avons la capacité, voilà, d'agir, d'être des acteurs de nos vies. Et quand Jean évoquait justement quelle était notre conception justement de la société d'après la révolution, d'après les fondements du capitalisme, nous
on a sur la tête là.
Voilà,
on est acharné à parler de voilà. Mais commençons par ce qu'il y a ici maintenant.
Concrètement, voilà, nous on agit ici et maintenant. Donc on agit dans une situation historique donnée, avec un contexte donné. Et on construit petit à petit.
Et toujours avec la perspective, voilà, du futur, qui est celui qui avait été pensé par la classe ouvrière et ses représentants au XIXe siècle.
Bon, en sachant que même si la société a évolué et qu'on n'est plus dans le cadre industriel
du 19e siècle, c'est-à-dire un capitalisme en pleine croissance, un capitalisme centré sur l'Occident, avec un contexte qui permettait justement une plus grande conscience, justement d'une classe ouvrière combative, parce qu'elle était confrontée, voilà, c'était sa survie, la survie de l'individu était confrontée à la volonté d'un système de le détruire. Et cela, nous recommençons à le vivre actuellement, avec un système qui, pour se préserver, est prêt à sacrifier aussi bien notre avenir en tant qu'individu, mais aussi notre avenir en tant que simplement qu'être vivant, qu'être humain. C'est-à-dire qu'on est en train de créer une société qui reposerait sur une forme de barbarie jamais vue dans l'histoire, c'est-à-dire une régression, une désintégration de la communauté aussi bien nationale que les communautés locales, que les communautés, la première des communautés, c'est-à-dire que la famille. Donc on est en train de vivre un éclatement total de la société, une déshumanisation galopante, et aussi une destruction de notre environnement direct, naturel. Donc par rapport à cela, nous on réagit à notre échelle, déjà, en disant que il faut que la prise de conscience individuelle, c'est justement ce qu'on met en avant, c'est-à-dire que la volonté de collectif est basée sur ça, c'est-à-dire que on ne peut dépasser la situation actuelle que qu'en pensant de façon globale, qu'en pensant en termes de collectif, de communauté militante, de communauté révolutionnaire. Mais aussi, et c'est là ce que je voudrais insister aussi, d'avoir une pensée globale, c'est-à-dire comprendre que les enjeux ne sont pas simplement à notre échelle individuelle, mais aussi que les enjeux se situent à une autre échelle, c'est-à-dire mondiale, avec justement un combat à l'heure actuelle, voilà, total et global contre l'humanité qui est menée par le capitalisme. Donc cela, ce n'est pas du tout une vision catastrophique de la situation, mais c'est simplement dire qu'à ce moment-là, même en tant qu'individu, confier sa destinée aux mains d'un leader ou d'un gourou ou d'un messie, on n'a pas besoin d'admirer un chef ou de trouver justement quelque chose de construit, une tête pensante qui serait incarnation suprême.
Il n'y en a plus de tête pensante. De toute façon, on ne pense pas beaucoup, les têtes. Et puis, les quelques grands esprits, comme on voyait apparaître au 19e siècle ou encore au début du 20e siècle, les conditions historiques et sociales font qu'on ne les a plus pour des raisons sur lesquelles il faudrait se développer plus longuement, mais on n'a plus. Donc, il faut penser plus collectivement. Et donc produire une pensée qui est le résultat d'un travail d'organisation, de groupe. Alors quand on montrait encore une fois son museau sur Internet ou je ne sais pas où, ça n'a aucun intérêt.
Très bien, merci. Nouvelle question de la part de Julien, qui est l'habitude des conférences ici. Question pour Louis-Alexandre. Proposez-vous une alliance avec la Russie et que pensez-vous des théories d'Alexandre Douguin ?
Alors c'est deux choses différentes en effet. Par rapport à l'alliance avec la Russie, disons que d'un niveau géopolitique, certainement, on ne peut penser justement à une Europe qui arriverait à se débarrasser de la domination atlantiste, parce qu'on ne peut pas même plus dire américaine, parce que c'est un système qui transcende justement les pays, les États-Unis n'étant pas l'unique vecteur justement du capitalisme et de la globalisation. Donc pour se débarrasser de la domination atlantiste, occidentaliste, elle peut avoir plusieurs noms, on doit s'appuyer justement sur un pays comme la Russie qui a les capacités géopolitiques, parce qu'il a les capacités naturelles, par ses ressources naturelles, par sa puissance militaire, par aussi sa place centrale entre deux continents, d'être justement un pôle de résistance,
l'Eurasie,
c'est-à-dire ce pôle justement, et c'est là où la pensée actuelle justement, c'est de penser que la Russie, en tant que pôle de résistance et pôle aussi offensif par rapport à la domination impérialiste, peut libérer et peut contribuer à nous libérer de cette domination qui, de toute manière, s'effondrera du système occidentaliste. Donc, à partir de là,
tant que la Russie n'est pas décomposée, ce qu'a tenté le système capitaliste atlantiste à la fin de l'URSS, on est très très près de la catastrophe irrémédiable et définitive qui était démanteler la Russie, quoi, sur un plan géopolitique. Donc ça, ça a été évité. Bon, c'est vrai qu'on doit, reconnaître bon, à Poutine d'avoir réussi cela. Donc effectivement, il y a encore de l'espoir, on peut dire, à partir de là. Donc nécessairement, la Russie a une importance. Par ailleurs, il y a bien des critiques à faire à l'égard du système actuel en Russie, qui reste qui est un système capitaliste. Bon, une position de, Poutine sur le plan politique et social, point de vue intérieur, ne semble pas quand même les meilleurs, loin de là.
Mais voilà, après, on peut... On peut faire une différence nette, par exemple, entre la, place géopolitique de la Russie et justement ces questions de, politique intérieure et de gouvernement. Après, par rapport, pour revenir justement à la personnalité d'Alexandre Douguine, c'est vrai que c'est une, un défenseur intéressant à l'heure actuelle, même au niveau global et au niveau mondial, qui propose justement cette, vision eurasiste, cette vision
multipolaire.
Qui réconcilie aussi bien la dimension traditionnaliste, justement, qu'on parlait, justement, en évoquant tout à l'heure, et cette une vision révolutionnaire, justement, de, basculement d'un monde dominé par le capitalisme et par l'atlantisme, à un monde multipolaire, basé sur des, voies différentes, peut-être, vers le socialisme. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la démarche de, Douguine. C'est un individu, c'est quelqu'un qui, aussi bien, prend l'héritage de l'époque soviétique, et d'ailleurs vous verrez qu'il ne s'est jamais, malgré qu'il a été dissident justement à l'époque soviétique, il a été aussi attaqué à l'époque et surveillé de près justement par, certaines officiers soviétiques, et c'était une personne qui ne mettra pas en doute justement cette, l'apport qu'a eu l'époque soviétique sur la destinée de la Russie, et qui peut intégrer aussi bien la, Russie impériale, toute l'histoire de la Russie, et intégrer aussi l'histoire de l'URSS à cet, héritage pour montrer, que la Russie a suivi une, toujours une voie différente de celle mise en place en Occident, c'est-à-dire libérale, capitaliste, et qui a proposé une voie propre à, justement à cet esprit eurasiste que nous aussi, en tant qu'Européens, nous pouvons revendiquer, parce que nous aussi, nous sommes les fils de cette Eurasie, de ce de cette vision impériale, de cette vision de, civilisation qui est totalement étrangère justement à la vision de l'Occident matérialiste, capitaliste, qui domine actuellement.
Merci de votre réponse. Alors, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui est, sans doute proche de ceux que vous venez de développer, c'est la question dite du national-bolchevisme, puisque... lors de ces émissions avec Méridien Zéro, par exemple, vous avez parlé d'un petit peu de, national-bolchevisme. Vous avez dit que c'était une de, vos influences, comment dire, formatrices. Et moi, à titre personnel, je n'arrive pas très bien à concevoir ce que c'est que le national-bolchevisme. Je vais expliquer rapidement pourquoi, parce que bolchevisme, ça veut dire les majoritaires, donc le courant qui a gagné la révolution soviétique d'octobre 17, comme vous savez, qui a ensuite donné naissance à l'URSS. Mais... Et d'un autre côté, le nationalisme, alors le nationalisme, c'est quelque chose qui théoriquement avait été réfuté par, par les bolcheviks, justement, même si la structure étatique qui est devenue l'URSS a appelé à un moment donné à la guerre patriotique nationale, notamment sous Staline. Alors moi, j'aimerais bien savoir déjà votre, définition, et puis d'un autre côté, quels sont les auteurs, justement, ou les pistes de réflexion qui vous ont inspiré pour voilà, pour créer le journal d'ailleurs, entre autres, et puis pour vous former personnellement. Merci.
Alors c'est le national-bolchevisme est une de nos influences, un des courants dont on peut se revendiquer. Ce n'est pas exclusif, loin de là, mais on l'intègre, dans le mouvement ouvrier. Alors d'abord, le national-bolchevisme n'est pas un nationalisme, à proprement parler. Hein, les nationaux-bolcheviques ne se sont jamais dit nationalistes, ils faisaient plutôt partie de tendance nationale, c'est pas la même chose, national-révolutionnaire, au sein de ces mouvements un peu marginaux qui étaient ceux de la révolution conservatrice. Donc il y a énormément de différence entre tous ces courants de la révolution conservatrice. Je ne sais même pas si on peut vraiment, mais à proprement parler, les inclure d'ailleurs dans ce mouvement. mais le national, il me semble que le mot national-bolchevisme a été utilisé la première fois, il me semble, par Karl Radek, donc qui désignait la première version du national, ce qu'on a appelé ultérieurement donc national-bolchevisme, parce que les auteurs eux-mêmes ne se disaient pas national-bolcheviques. C'était à l'origine une scission, une dépense qui est devenue une scission du KPD, c'est-à-dire qui était le Parti communiste ouvrier d'Allemagne, qui s'était distingué du Parti communiste, du KPD. Donc c'était ce qu'on appelait traditionnellement, je dirais, la gauche communiste, les tendances qui n'étaient pas tout à fait sur les mêmes positions que ceux de la Troisième Internationale au début des années 1920. Donc ça, c'était la tendance de Hambourg.
C'est l'ultra-gauche. Oui,
enfin, bon, à l'époque, ils n'employaient pas ce terme. Non, c'était la gauche communiste. C'était. Oui. Et donc, c'était la tendance à l'origine de Hambourg. Bon, les deux représentants, c'était Wolfram et Laufenberg. Alors, ensuite, ce terme a été repris, cette tendance a ressurgi. L'idée qui a été théorisée, c'est la nation prolétaire. Les Allemands étaient écrasés par le traité de Versailles, et donc il y a eu effectivement un recours à l'idée de nation, mais dans le sens révolutionnaire du terme, de nation de prolétaire, qui a été utilisée donc par Nikitsch, par Karl Otto Pétel aussi. C'était la publication Nation Socialiste de Pétel. Donc Pétel, lui, a fui le système nazi, il a plus émigré aux États-Unis où il a terminé sa vie d'ailleurs. Nikitsch, il a terminé à l'école de concentration, il a été libéré en
1945
par l'armée rouge. Donc voilà, le terme national-bolchevique. Grosso modo, quelle a été son histoire, ce qu'il a représenté. Alors en Russie, il y a des courants que je connais moins,
qui sont moins connus. On n'a pas trop de traduction dessus.
On n'a pas de traduction, oui.
Il y a quelques études universitaires, mais en gros, ce seraient des courants qui seraient apparus justement dans le courant bolchevique ou dans des courants proches, c'est-à-dire issus, par exemple, de ce qu'on a appelé aussi les socialistes révolutionnaires en Russie, c'est-à-dire un courant à la fois populiste et proto-socialiste. C'est quelque chose d'assez divers. On n'a pas beaucoup de...
Non, donc on n'a pas trop
d'informations donc dessus, en français en tout cas. Et tout cela, disons, pour schématiser un peu, on peut dire que c'est en gros une réflexion pour unir la cause du peuple et la cause de la patrie, dans le sens
pas dans le sens
nationaliste, dans cette dimension justement impérialiste, mais justement plutôt dans cette sens d'attachement à une communauté nationale ouverte
et ouverte sur l'Europe. Ça, voilà, c'était la grande idée de Nikitsch, c'est vraiment celui qui a vu l'importance de l'Est de l'Europe d'être tourné vers l'URSS à l'époque. Et c'est la vision impériale qu'il avait signifiait cela. Ce n'était pas du tout un nationalisme, c'était aux antipodes du nationalisme
impérialiste,
et puis du germanisme exclusiviste, etc., de certains courants des années 20 et 30.
D'ailleurs, on peut constater que la plupart, justement, et même la totalité des personnalités proches, justement, du courant national-bolchevique sont ensuite devenus des opposants au national-socialisme. On parle par exemple de Pétel qui a monté les premiers réseaux de résistance à l'intérieur même de l'Allemagne.
La revue Nikitsch, Widerstand.
Résistance en allemand. Donc ce sont des personnes
qui sont. Hitler, une fatalité allemande.
C'est un de ses livres, des livres phares de Nikitsch.
Donc critique du fascisme, critique du national-socialisme.
En sachant qu'à chaque fois, c'était dans un point de vue qui n'était pas celui-là de la bien-pensante de l'époque. Ce n'était pas se rallier à la démocratie, mais c'était affirmer qu'il y avait une autre voie possible entre l'Occident. Et justement, il considérait que le national-socialisme était une voie occidentaliste, dans le sens, en rupture justement avec l'alliance traditionnelle avec les peuples de l'Est. Et aussi, par exemple, dans tous les courants national-bolcheviques, vous aviez aussi un intérêt pour toutes les luttes de libération nationale qui pouvaient apparaître déjà à l'époque, aussi bien dans les pays colonialisés que dans le monde en général arabe ou asiatique. Donc on voit qu'il y avait vraiment une volonté d'affirmer qu'il y avait des peuples qui, par exemple dans la situation du traité justement de Versailles, étaient opprimés par le capitalisme en Europe même, c'est-à-dire le peuple russe qui, à l'époque, était quand même soumis à des pressions internationales, avec des blocus, des interventions étrangères, une guerre civile qui a tenu, et une, aussi, ce point commun justement avec le peuple allemand, qui lui aussi était à l'époque dépecé et sous le diktat de Versailles. Donc tout cela va dans un sens que, si on veut schématiser, c'est une voie particulière et affirmée vers le socialisme, dans un cadre, voilà, un cadre européen, un cadre propre à notre civilisation européenne, et une volonté, voilà, d'être en rupture avec le modèle dominant et le capitalisme et l'occidentalisme ou l'atlantisme.
Il ne s'agit pas de copier les positions des nationaux bolcheviques des années 20-30, ça n'aurait aucun sens. À notre époque, c'est pas du tout, quand on dit que c'est une référence, c'est pas du tout reproduire les mêmes points de théorie, reproduire les mêmes prises de position, puisqu'elles sont marquées par les circonstances de l'époque, ça n'a aucun sens. Mais ce qui a un sens, c'est vraiment cet intérêt qu'ils ont porté justement au rejet de l'Occident, rejet de l'Occident, de la figure occidentale du monde, de ce que portait le capitalisme à ce moment-là, et l'idée donc qu'il fallait faire une Europe socialiste. J'ajoute également que ces gens-là ont été non seulement persécutés par le système national-socialiste, liquidés pour certains, et qu'ils sont encore calomniés, et alors de manière odieuse, par des piscopies universitaires qui ont écrit dessus. Alors, ils peuvent écrire aisément parce que les textes ne sont pour très peu traduits en français. Donc, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent puisque personne ne peut lire l'essentiel de leurs travaux en français. Et ils se gardent bien, ils sont bien gardés d'ailleurs de les traduire largement, leurs œuvres. Donc là, on peut écrire n'importe quoi, évidemment, sur des gens que personne ne peut lire. Donc, ces gens ont été calomniés. Et les quelques travaux en français qui ont été faits sur ces courants peuvent être ponctuellement intéressants pour avoir des informations, mais il faut les lire de manière très très critique et avec une optique justement toujours révolutionnaire et critique, parce que ce sont des travaux qui sont souvent faits pour les noircir et les calomnier. Il n'y a qu'une réponse qui a été, je crois qu'il faut lire le texte de l'hommage rendu par Lukács. Dans les années 1960, à Nikic, c'est un ouvrage vibrant qu'il fait à Ernst Nikic. Donc tous les morveux gauchistes, etc., qui sont payés justement pour soutenir le système, eh bien, il faudrait bien lire ce texte de Lukács, et là ça leur coule le bec.
Très bien, merci. Une question alors de Louis, qu'il a défini lui-même comme un peu provocante. Vous demande si le communisme, pour vous, est une dérive du socialisme, en notant que le communisme a fait plus de 60 millions de morts.
Ça, c'est un peu rigolo, quoi. Comme question, parce que... Alors, le communisme, d'abord, qu'est-ce que c'est ? Le mot se trouve chez Cabet, au XIXe siècle. Et le mot socialisme se trouve employé au départ chez des auteurs comme Pierre Leroux, et puis ensuite les socialistes utopistes Fourier, etc. Bon. Le socialisme à l'origine, c'est une critique, comme je disais au départ, du capitalisme, et qui met l'accent sur, on va dire pour aller très vite, sur l'intérêt général, sur le bien commun, sur l'idée de justice sociale, face au méfait hallucinant du capitalisme qui prend de l'ampleur au XIXe siècle. Bon. Le communisme chez Cabet, une vision plus, on va dire, plus collectiviste du socialisme. Voilà. C'est ce qui distinguait
les socialistes au départ, donc dans la première moitié du 19e siècle, des communistes. Et alors, ce qu'il faut connaître, c'est vraiment la base, c'est la critique que Marx fait des deux courants, c'est-à-dire du socialisme utopique et de ce qu'il appelle le communisme de caserne, de KB, de ses courants. Donc Marx et Engels reprennent en fait les deux termes de manière à peu près synonyme, en quelque sorte. Le socialisme pour eux devient un socialisme qui s'appelle scientifique parce qu'il n'est plus utopiste, et ils se disent communistes parce que l'avant-garde du prolétariat de l'époque, ce qu'il y a de plus cohérent, de plus radical à l'époque, se dit communiste, c'est un prolétaire, c'est communiste. C'est pas Marx qui invente le terme. Alors après, d'abord les chiffres, on peut toujours discuter, en histoire, 60 millions, moi ça me paraît un peu fumeux, comme une évaluation d'ailleurs, je ne crois pas, je pense qu'il y a des dénames dessous, et deuxièmement, ce n'étaient pas des systèmes à proprement parler communistes dont on parle, ce sont des systèmes qui ont fait une révolution, qui s'est ensuite encroutée, qui a eu des dérives, avec effectivement un certain nombre de difficultés, et notamment la Seconde Guerre mondiale, pour ceux qui concernent les RSS, c'est qu'on ne peut pas oublier ça.
Merci de cette réponse. Je laisse la parole à un auditeur pour une question sur la démocratie.
Oui, bonjour. Alors je voudrais savoir, pensez-vous que la démocratie soit une chose positive, et croyez-vous pensez-vous que la masse travailleuse soit apte à la réflexion politique et à la politique en général?
Alors il y a là deux questions différentes, mais il y a peut-être un lien quand même entre les deux. Alors bon, d'abord, démocratie, qu'est-ce qu'on y met derrière le mot démocratie? C'est toujours pareil. Démocratie ne définit pas, c'est pas un terme qui définit des rapports de production et d'existence. C'est un terme qui définit une forme d'exercice du pouvoir politique. Alors, cette forme d'exercice du pouvoir politique, c'est globalement pour notre époque, parce qu'on ne va pas parler de la démocratie athénienne, on peut remonter comme ça jusqu'aux anciens germains, probablement au néolithique, des formes d'exercice de pouvoir collectif, bon, ce qu'on va les appeler démocratiques, ça serait peut-être, pour ce qui concerne les Grecs, oui, puisque ce sont eux qui ont inventé le mot. Bon, c'était des formes d'exercice des citoyens, des gens qui participaient aux affaires de la cité. Bon, là, ma foi, c'est quelque chose qui paraît parce qu'aller de soi dans des formes de communauté qui sont cohérentes. Bon, après, pour nous, la démocratie, c'est quand même la forme d'exercice de la démocratie actuellement a été portée quand même par le système capitaliste qui s'est débarrassé peu à peu, à des vitesses diverses, et dans des lieux divers de la planète, donc qui est porteur donc de mouvements de critiques et de destruction concrètes des formes traditionnelles d'exercice du pouvoir politique. Alors, bon, ben, en France, c'est la monarchie absolue qui en a fait les frais. Dans d'autres contrées, ce sont des formes de vie plus ou moins tribales. Dans d'autres civilisations, c'est le mode de production asiatique qui en a été bouleversé, etc. Donc le capitalisme, effectivement, ne peut pas tellement coexister dans un premier temps avec ces formes traditionnelles et anciennes d'exercice du pouvoir politique. Hein. Donc il lui faut une représentation à travers des partis politiques qui représentent des instances diverses de la société, ce qu'on appelle la société civile. Voilà, alors donc la démocratie, de quoi parlons-nous exactement? C'est assez difficile de répondre à la question. Actuellement, la démocratie, c'est un spectacle assez bouffon, quoi. C'est tartufferie, quoi. Voilà, ce sont des partis politiques du système qui se partagent le pouvoir tour à tour avec tout le cirque que l'on connaît. Et donc, on est dans une forme de démocratie. Alors, bon, on peut préciser peut-être effectivement représentative, parce que dans les courants de philosophie politique, je pense en particulier à Jean-Jacques Rousseau, la démocratie ne peut pas, la démocratie représentative n'était pas, par exemple, l'orientation politique de Rousseau, puisque Rousseau pensait que la souveraineté ne pouvait pas être représentée. Donc, dans la démocratie représentative, Rousseau voyait une usurpation de la souveraineté du peuple. Donc, on peut revenir, par exemple, à une idée de démocratie qui serait une forme de démocratie directe, où effectivement la souveraineté ne serait pas autonomisée dans une sphère de l'État qui serait monopolisée par une oligarchie, un certain nombre de partis, d'intérêts divers, privés, financiers, etc., etc. Alors ça, c'est à mettre effectivement en relation avec la question de savoir si la majorité du peuple, ceux qui travaillent, effectivement, on peut les appeler comme ça, les travailleurs ou les prolétaires modernes, est-ce qu'ils sont à même d'exercer, si j'ai bien compris la question, je crois, le pouvoir politique, c'est ça qui est le pouvoir politique. Et, de toute façon, il ne faudrait pas plus mal que d'abord que nos fameux hommes politiques actuels, parce que vraiment, on est toujours de niveau, quoi, hein, on fait quand même une porte complexe à l'égard de ces gens qui sont quand même des incultes patentés. Alors derrière eux, il y a probablement des gens plus intelligents, mais on ne les voit pas trop. Ceux qui prennent des décisions, qui orientent la politique en fonction des intérêts économiques et financiers, ceux-là, on les voit moins. Ils sont plus intelligents, ils délèguent l'exécution des basses œuvres à ces gens qui sont payés pour nous faire le cirque, hein, médiatique. Bon, donc je dis que là, il n'y a vraiment pas à se faire de soucis, parce que pour être tombé aussi bas, je pense qu'on ne peut pas faire pire. Hein. C'est vrai que par rapport aux grands hommes politiques qu'on a pu avoir dans le passé, même si c'était des bourgeois, ils héritaient de la culture traditionnelle, de la bourgeoisie quand même, qui avait un certain niveau. Là, c'est pitoyable. Alors bon, donc là je pense qu'il faut quand même se décomplexer. Par ailleurs, lorsque nous parlons du principe de subsidiarité, on parle de subsidiarité, je ne sais pas si vous comprenez, là on a quand même quelque chose qui peut être intéressant sur le plan de l'exercice d'une démocratie qui serait une démocratie directe à un certain niveau, puisque les gens peuvent décider, prendre des décisions cohérentes sur un plan local. Alors ça ne veut pas dire qu'ils seront à même probablement d'être pertinent pour prendre des grandes décisions sur le plan énergétique ou stratégique, au niveau de l'État ou au niveau continental, ou probablement là, effectivement, dans la complexité du monde moderne, il faut des gens qui aient certaines compétences, mais ces gens qui ont des compétences ne doivent pas pour autant être coupés de tout contrôle. Et donc là, on peut parler effectivement de l'exercice d'une forme de démocratie, mais c'est ce qu'a comme objectif de la Commune de Paris, hein. Donc, une certaine forme de fédéralisme, hein, c'est ça à la base, quoi. Bon, c'était à l'origine aussi la notion des soviets, c'était ça l'idée. Voilà, alors après, il faut trouver des moyens, il faut les penser concrètement, de façon à ce que le pouvoir ne s'autonomise pas, évidemment. Au-dessus de la majorité.
Disons que le véritable défi pour l'exercice de la capacité démocratique par des membres d'une communauté qui serait sortie du capitalisme, ce serait surtout basé sur une prise de conscience des enjeux, c'est-à-dire par une éducation. À l'heure actuelle, la démocratie dans laquelle nous vivons est basée, elle, sur l'ignorance, au contraire, et sur
la manipulation.
La manipulation médiatique.
L'esprit et les comportements.
Voilà. Nous, notre vision de la démocratie, c'est au contraire, c'est le pouvoir au peuple, c'est-à-dire la capacité pour le peuple de décider par lui-même, en âme et conscience, et avec tous les éléments nécessaires, des décisions importante pour sa destinée et son destin. Voilà.
Et là, on a l'importance aussi quand même de la forme partie des organisations ou des partis qui peuvent cristalliser quand même un peu les aspirations à un moment donné, s'ils ont un fond cohérent de pensée, d'action au niveau doctrinal, qui peuvent cristalliser justement les aspirations d'une grande majorité de gens et qui peuvent les formuler de manière explicite, claire. Et bon, c'est dialectique le rapport qu'il peut y avoir entre un mouvement concret de lutte de masse assez large et donc rapport avec une organisation ou un parti qui pourrait justement être un peu un cerveau collectif comme ça, qui se renverrait un peu en quelque sorte la pratique et la théorie.
Merci de votre réponse. Moi, je souhaiterais revenir une seconde sur le socialisme européen, enfin les considérations sur la Grande Europe dont nous avons parlé tout à l'heure, en évoquant Thiriard et Dugin. Alors, sur Jean Thiriard, vous aviez formulé une réponse très complète, sur Dugin aussi. On avait évoqué brièvement le Grèce et les positions du Grèce. Alors, au sein du Grèce existe, hein, si on schématise, une dissidence, enfin, qui ne fait plus partie du Grèce désormais, mais la tendance dite identitaire du Grèce, avec représentée d'un côté peut-être par Pierre Vial, de l'autre par Robert Stöcker. Alors, quelqu'un comme Pierre Vial, qui semble d'une certaine manière assez proche de vos préoccupations, qui parle de condamner le capitalisme, notamment, et souhaite une forme de, finalement, peut-être de socialisme enraciné. J'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements et qu'est-ce que vous pensez, quelle place vous accordez dans cette revue aux facteurs dits ethniques ou aux facteurs dits identitaires. Merci.
Bon, nous, on n'est pas trop au courant des tendances multiples du Grèce, s'il y en a, je ne sais pas. Probablement, il y a des gens qui ont quitté le Grèce. Le mouvement identitaire dont vous parlez ne semble pas être rattaché actuellement au Grèce. Ils sont sortis, probablement. Alors, là aussi, bon, évidemment, on va dire qu'on aura un chérissant, mais enfin, bon... d'un côté, il y a l'apologie du capitalisme dans notre société, évidemment. Puis, de notre côté, il y a tous les anticapitalistes autoproclamés. Qui appartiennent à des tendances politiques très différentes. Moi, je suis très, très sceptique sur leur critique du capitalisme. Je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par leur critique du capitalisme et par, ils utilisent le mot socialiste, je suis pas sûr que ça corresponde exactement à l'histoire du monde ouvrier et à la nature même du socialisme. Je suis même convaincu du contraire, pour parler honnêtement. Je ne vois pas chez eux d'analyse sérieuse de la lutte de classe, ils ne parlent jamais de cela.
Disons que, voilà, je pense qu'il y a une, dans certains courants, un problème par rapport à ça, c'est-à-dire que, ils ne veulent pas aller jusqu'au bout de certaines, de leur prise de position, dans un sens justement de combat contre la mondialisation capitaliste. Ils reconnaissent certains aspects négatifs, et ça, reconnaître qu'ils visent certaines choses. Après, la seule chose, c'est qu'il faut aller plus profondément. C'est là le travail de rébellion, c'est d'avoir montré qu'il fallait approfondir la critique du capitalisme, ne pas rester un simple, voilà, première étape, et au contraire, aller au-delà.
Pour prendre un exemple, dans le manifeste du Parti communiste de Marx, il y a par exemple une analyse de certains courants à l'époque qui se disaient socialistes, par exemple ce que Marx appelait le socialisme féodal, etc. C'est-à-dire des gens qui employaient le terme socialisme un peu à toutes les sauces, qui pour certains pouvaient avoir d'ailleurs faire des remarques intéressantes, même d'un point de vue, le terme je l'emploierais de manière assez neutre, d'un point de vue réactionnaire. Il y a une critique
une vision parfois de certains auteurs réactionnaires qui est une vision très réaliste des contradictions du capitalisme et de la nature du capitalisme. Bon, par exemple, et aussi par exemple au niveau littéraire, Balzac, qui était légitimiste, réactionnaire au sens propre du terme, fait une critique du capitalisme et des transformations du mode de vie et des mœurs de l'époque que Marx admirait énormément. Alors, donc, il y a des gens qui peuvent se dire socialistes, etc., un peu de cette façon. Mais le problème, c'est que ça, c'était ce dont je parle, c'était il y a 150 ans et plus de l'eau a coulé depuis sous les ponts, comme on dit. Je pense que ces gens-là ont une vision de l'identité qui était sous forme de communauté un peu mythique. Alors, est-ce qu'elle est mythique, je ne sais pas, enfin, peut-être. Hein. Pour certains, c'est plus ou moins dit explicitement. Et j'ai l'impression qu'ils identifient le socialisme à ce type de communauté mythique. Si nous parlons du terme identité, nous la concevons plutôt comme une identité en construction, en devenir, non pas comme une espèce d'identité mythique. Donc c'est en ce sens que nous sommes très différents de, probablement de ces courants que par ailleurs je suis assez peu.
Non, disons que Jean Gallier a raison de préciser que notre conception de l'identité, nous, elle est une dimension plutôt futuriste que une identité enfermée dans un musée. C'est-à-dire que nous considérons que à partir d'un héritage que nous pouvons avoir en tant qu'individu, nous devons le faire fructifier, nous devons le faire progresser. Nous devons avoir cette volonté. Voilà, de transformer cet héritage en quelque chose de porteur de valeurs nouvelles, adapté à notre époque.
Oui, on ne part pas de rien, une identité, tout le monde a une identité, à moins d'être un zombie.
Voilà, et c'est notre force en tant qu'individu. Après, par rapport à ces courants, et Jean Gallier a eu raison aussi de préciser que certaines démarches liées à la vision traditionnaliste, comme par exemple celle d'Evola ou de Guénon,
Ce qui est différent, mais est intéressante.
Hein. Et c'est pareil, hein. Et je pense que si des personnes venues de ces horizons-là veulent évoluer, ils seront tout à fait, je pense qu'ils ne pourront que passer par, par une étape supérieure et passer par une réflexion plus large et que peut-être, à ce moment-là, ils pourront rencontrer notre propre démarche. Et là aussi, on le dit sans aucune volonté de créer une polémique avec divers courants, c'est juste ce que il faut être cohérent, il faut être juste, prendre conscience de quelque chose.
C'est peine bénie pour l'idéologie dominante, pour toutes ces histoires d'identité ethnique et compagnie, mais là, elles se régalent, quoi. Les médias, le système capitaliste, ils se jouent sur le velours, c'est fabuleux pour eux, parce qu'ils ont d'un côté des gentils démocrates, de l'autre côté, ils ont des nazis, ou je ne sais pas comment on peut appeler, des identitaires, ou tout ce qu'on voudra. Bon, là, vraiment, la situation est complètement bloquée parce qu'on parle de tout sauf de l'essentiel, quoi. C'est-à-dire de l'exploitation de l'humanité par le capital.
Qui, justement, détruit les identités des peuples.
L'identité, c'est l'uniformisation totale, la disparition. La seule identité qui reste, c'est la valeur en procès. C'est la définition du capital par Marx, c'est la valeur indéfinie. Le capital, c'est la valeur en procès. C'est la seule référence. Les zombies, s'ils pouvaient se priver de l'humanité, même le capital, ils le feraient. C'est là sa contradiction fondamentale, parce qu'il a toujours besoin du travail vivant pour tirer de la valeur, et en même temps, il ne sait plus quoi faire, évidemment, de ces masses de gens devenus inutiles à bien des égards. Alors donc, ils déambulent sur la planète, ils sont déracinés. On a des délocalisations, on a des immigrations chaotiques avec des gens qui ne savent plus où aller, des pauvres airs qui déambulent sur la planète. Et on tire les ficelles, on manipule tout ça, sous le vent des problèmes ethniques, religieux, je ne sais trop quoi.
Et au final, on aboutit à ce que ces gens-là ne savent même plus qui ils sont et adoptent les valeurs et les comportements que le système dit. Et c'est justement là aussi l'identité que certaines personnes mettent en avant, ça va être une identité reconstruite, mise sous cellophane par le système pour que ça soit vendeuse. C'est en gros, un fest-noz fabriqué pour les touristes, c'est le spectacle touristique que vous pourrez voir en Afrique si vous allez au Sénégal, pseudo, des sauvages déguisés, hein, avec des trucs en palme, voilà, c'est ça. En vérité, c'est, on tombait toujours dans la caricature. Et ça, c'est pas l'identité. Le folklore n'est pas l'identité. La marchandisation du folklore, de certaines cultures pour les vendre comme produit de consommation de masse, ben, c'est pas ça. Et je suis désolé, mais voilà, nous, on a pas cette vision de l'identité. Pour
l'archéo-marchandise.
L'archéo-marchandise, nous, on n'en veut pas. Nous, on veut quelque chose qui soit concret, qui soit vécu, parce que l'identité, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on s'approprie et que l'on construit.
Oui, voilà, c'est une identité en lutte. Voilà. C'est, voilà qui nous sommes. Nous sommes face au capital, nous organisons des gens qui ne veulent plus se faire tondre la laine sur le dos. Ça, c'est d'abord ça, l'identité. C'est, on se pose quand même par rapport au capital et on s'y oppose frontalement. Après, le reste, bon, me paraît un peu de l'ordre de la rhétorique.
Très bien, merci. Je passe à présent la parole à un auditeur.
Rebonsoir, hein, je reviens un petit peu. Je voudrais élaborer. D'abord, je voudrais poser une base. C'est que moi, à l'origine, je viens de la gauche. Hein, je suis un anciennement. J'ai passé un certain temps dans ma jeunesse à être militant communiste, hein, n'est-ce pas? Donc je viens de là, hein, si ça peut vous aider à comprendre mon point de vue. Voilà. Donc vous avez parlé un petit peu plus tôt donc notamment du caractère subversif du capitalisme, hein, que vous opposiez au marxisme, qui finalement n'était selon vous ni de gauche ni de droite, donc une sorte de marxisme plus ou moins neutre ou centriste, hein, même. Donc c'est vrai que ça me paraît un petit peu étrange, parce qu'il me semble quand même que le marxisme lui aussi a ses caractères assez subversifs. Et moi, en vous écoutant, et venant de la gauche, hein, justement, j'ai quand même l'impression que vous avez une vision vraiment très matérialiste de toute cette problématique, donc de cette lutte, de ce côté révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, j'ai l'impression d'entendre des militants, d'anciens militants communistes ou socialistes, qui, en gros, nous expliquent que leur vision du monde, c'est simplement qu'avec une meilleure redistribution des richesses, de la plus-value, de ce que vous voulez, hein, on arriverait plus ou moins à une société plus juste, etc., etc. C'est-à-dire que ça se place, tout ce que vous racontez se place vraiment, j'ai l'impression, purement sur le plan matériel. Alors vous venez de parler, moi je réagis parce que vous venez de parler des gens qui viennent de Guénon, d'Evola, hein, de la vision un petit peu plus traditionnelle, et qui devraient franchir une étape supplémentaire pour arriver à votre niveau. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est le communisme, les mouvements communistes et socialistes historiquement, qui ont, eux, fait la preuve de leur échec et de leur propension à se vendre et à se dissoudre, et que c'est plutôt des militants anciennement communistes ou socialistes qui doivent s'intéresser à la vision traditionnelle et se réconcilier avec peut-être quelques côtés plutôt positifs de la pensée un petit peu réactionnaire. Voilà. Donc effectivement, j'ai l'impression d'entendre une vision entièrement matérialiste. Je me demande s'il y a une place pour la spiritualité là-dedans ou pour une vision un petit peu plus élevée. Voilà. Merci.
Alors, il y a beaucoup de choses dans ce qui est dit. Alors d'abord, la question de fond, bon, matérialisme, alors là, qu'est-ce qu'on veut dire par là, hein? Il y a deux sens au terme, au moins, au terme matérialisme. J'ai l'impression que notre auditeur prend le sens le plus commun, c'est-à-dire matérialiste, quelqu'un qui a des préoccupations, comme on dit, strictement matérielles, au sens prosaïque ou utilitaire. Bon. Donc là, ça, c'est évidemment pas le sens philosophique du terme matérialisme. On pourrait peut-être le rapprocher en mieux du courant utilitariste en philosophie de Stuart Mill, par exemple, ou Bentham, ou encore. Les auteurs d'ailleurs n'ont pas tout à fait les mêmes positions. Ensuite, pour ce qui concerne le matérialisme philosophique, si on prend la définition du mot matérialisme philosophique, bon, je prends quelques exemples de doctrine.
ce ne sont pas du tout des doctrines utilitaristes, par exemple, dans l'Antiquité. Et puis, si on parle, d'Épicure, par exemple, c'était un auteur qui, au contraire, proposait un mode de vie tout à fait simple, c'est bien connu, et qui avait quand même une dimension tout à fait spiritualiste, pour employer le mot de notre auditeur. Aristote lui-même, un penseur très important, Aristote lui-même dit que le sage doit pouvoir profiter des conditions de vie matérielles tout à fait décentes. Que la misère ne peut pas faire le bonheur de l'homme, c'est Aristote qui le dit. Je ne peux pas dire qu'Aristote ce soit quand même un précurseur du libéralisme. Faire très attention au terme matérialiste. Troisièmement, sur le terme matérialiste, la philosophie de Marx, effectivement, est une philosophie matérialiste. Et alors là, Marx a dit très clairement sa critique du matérialisme bourgeois du 19e siècle. Des gens comme Helvétius, Dolbach, par exemple, Ametri, etc. Tous ces auteurs matérialistes du 18e siècle n'étaient pas, il en fait un compte-rendu, par exemple, dans la Sainte Famille, par exemple, ce ne sont pas des auteurs dont ils se réclament explicitement. Donc, ils voient simplement un courant de la pensée bourgeoise la plus radicale qui était révolutionnaire à l'époque au 18e siècle, mais c'est tout. Le matérialisme, je dis bien dans l'hôtel sur Feuerbach, l'idéalisme et le matérialisme ont développé, ont réfléchi sur deux aspects importants de l'existence humaine. Et l'idéalisme a beaucoup insisté sur le côté actif de l'existence humaine, alors que le matérialisme est resté un matérialisme contemplatif, comme il est dit dans sa terminologie. Contemplatif veut dire à ce moment-là passif, comme si les hommes n'étaient que le produit de leur milieu. Alors ça, c'est la pensée de gauche, justement. Les hommes sont le produit de leur milieu. C'est pas marxiste, c'est pas même marxien, puisque Marx dit bien que ce sont les hommes qui créent leurs conditions d'existence, mais qu'ils le font dans des circonstances qui font qu'ils sont héritiers des conditions d'existence qu'ils n'ont pas créées, bien évidemment, et que en recréant, reproduisant leurs conditions d'existence, ils ne maîtrisent pas toujours les conséquences de leurs actions. Donc c'est ça la pensée de Marx. C'est pas l'homme ne serait que le produit du milieu, par exemple. Hein, ça c'est bon. Le cas était sur Feuerbach. C'est assez clairement mis par Marx. Voilà. Donc l'idée pour nous, c'est pas une injure d'être taxé de matérialiste. Dans ce sens-là, il faut faire attention. Le matérialisme, par exemple, il est, pour donner un dernier exemple philosophique, il est nominaliste, par exemple, chez Hobbes, au XVIIe siècle. Mécaniste et nominaliste chez Hobbes. Marx n'est pas un matérialiste, nominaliste, ni mécaniste. Donc, je ne sais pas trop ce qu'on met derrière le mot matérialisme. On peut considérer effectivement que le matérialisme n'est pas l'ennemi de l'esprit, comme le dit notre auditeur, puisque la perspective communiste de Marx, c'était de rendre l'individu à lui-même, de rendre l'homme à lui-même. En ce sens, je pense, et je suis pas le seul, on peut lire par exemple les travaux qui commencent à être traduits en français actuellement, de notre camarade philosophe italien Costanzo Preve. Marx est aussi un héritier de l'idéalisme philosophique. Et Marx, je pense en particulier qu'il est quand même un grand héritier d'Aristote, du développement que fait Aristote concernant la vie théorétique de l'homme, la vie contemplative selon les traductions, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir cultiver au-delà de la nécessité, ce qui fait la preuve de sa liberté, ce qui témoigne qu'il est un être d'esprit, c'est-à-dire que l'homme peut développer ses facultés pour elles-mêmes, pour ce qu'elles sont, et non pas en vue d'autre chose. J'explique, c'est-à-dire qu'il y a des activités que l'homme produit réalise en vue d'autre chose. C'est le cas de l'activité technique qui est mise en mouvement, par exemple, au sein de l'économie au sens commun du terme, c'est-à-dire on cherche le résultat de quelque chose. Alors là, il faut avoir une pensée technique, une pensée pragmatiste, et dont le résultat de l'action tient à son efficacité matérielle. Ensuite, dans ce que Aristote appelle l'action pratique, comme l'éthique ou bien la politique, l'homme est engagé dans des choix qui là aussi concernent les circonstances de la vie, et il est en rapport avec autrui, au sein de la cité, au sein de la société, et ben, là aussi, donc, il y a une certaine efficacité à avoir, et comme dit Aristote, l'homme à ce moment-là reste quand même dépendant dans une certaine mesure de la nécessité. Alors il est dépendant au premier chef de la nécessité dans le travail, il est aussi dépendant de la nécessité dans l'activité politique par exemple. Donc l'homme est à ce moment-là privé de temps libre, dit Aristote. Il écrit « L'homme ne se prive de loisir, mais que pour avoir du loisir ». C'est le troisième aspect de la question, c'est-à-dire que l'homme doit pouvoir atteindre une certaine liberté, une certaine spiritualité. Et donc c'est ce que Marx appelle l'activité théorétique. Et alors, ce qui est intéressant chez Marx, c'est qu'il est d'abord, il reprend cette définition, il dit que la liberté ne commence qu'au-delà du règne de la nécessité dans le Capital, et on trouve des pages aussi fabuleuses de Marx dans la Grundrisse, c'est-à-dire les fondements de l'activité économique politique, qui étaient les manuscrits que Marx avait préparés en vue de travailler sur la critique de l'économie politique et sur le Capital, dans lequel manuscrit il explique que l'activité, la possibilité qui se trouve au sein du système industriel et capitaliste, c'est que malgré tout, malgré toutes ces horreurs et l'aliénation, le travail de l'homme peut enfin devenir théorique, explique-t-il, que l'homme sera plus soumis intégralement à la nécessité. Pour la première fois dans l'histoire humaine, ce que on ne pouvait pas concevoir auparavant, l'homme pourrait avoir une approche théorique, avoir une dimension théorique dans sa vie, y compris au sein du travail. Voilà. Et donc, ce que Marx appellera ultérieurement l'homme complet, l'homme total, c'est pas simplement dans le travail que ça va se réaliser. Marx le dit bien, l'homme doit gagner en liberté, en loisir, et dans cette liberté acquise, il pourra développer ses capacités, ses facultés. Alors, c'est pour ça que lorsque j'entends dire que le communisme serait une vision, d'après ce que je comprends, totalement prosaïque, triviale de l'existence, c'est un contresens absolu sur l'œuvre de Marx. Il n'y a qu'à le voir, il n'y a qu'à lire le texte. Hein. Bon, personne ne le lit, y compris ceux qui sont censés s'en réclamer. C'est ça qu'il y en a un qui a été effectivement malheureux dans le mouvement ouvrier. J'invite nos auditeurs à lire la prodigieuse histoire critique du marxisme de Costanzo Preve, qui répondra assez bien, je pense, à ce type d'interrogation. Alors, en ce sens, nous ne parlons pas, je continue, nous ne parlons pas de redistribution des richesses. Il n'a pas prononcé cette expression, nous ne l'avons jamais écrite. C'est pas du tout notre perspective. Nous voulons que les hommes aient une maîtrise sur leurs conditions d'existence. Donc, c'est pas la redistribution des richesses, c'est redistribuer les moyens de production. C'est pas la même chose. Avoir un pouvoir sur ses conditions d'existence, c'est avoir un pouvoir sur ses moyens de produire son existence. Alors, y compris, certes, matériel, parce qu'il faut quand même partir de là, et ensuite, surtout, les autres facteurs de l'existence humaine. On ne parle pas du tout de redistribution des richesses. Nous ne sommes pas sociaux-démocrates. Hein. Je pensais qu'on avait compris. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Il y avait des questions. Non. Oui, est-ce qu'il faut revenir à la tradition? C'est ça, sur... Alors d'abord, moi, je distinguerais réactionnaire et tradition. D'abord, les auteurs de la tradition, je ne sais pas, il faut se mettre d'accord sur les auteurs, mais je pense quand même peut-être plus important, Guénon ou Evola, sont des auteurs de la tradition, ce ne sont pas des réactionnaires. Evola ne se disait pas réactionnaire, d'après ce que j'en ai lu. Non, parce qu'être en réaction, d'abord, ce n'est pas une attitude d'homme de...
D'action.
D'homme d'action, et même un homme de tradition, au sens guénonien et évolien du terme.
c'est pas des réactionnaires. Les réactionnaires sont des gens qui étaient en réaction, alors historiquement, contre la Révolution française, n'est-ce pas? Ce sont les travaux de Edmund Burke, par exemple, tout de suite après la Révolution française, de Maistre, de Bonal, de Bonal, français. Bon, qui peuvent d'ailleurs dire des choses intéressantes aussi sur la.
D'ailleurs, de Maistre, c'est très intéressant, oui, il faut lire de Maistre.
Il y a des choses intéressantes chez ces auteurs réactionnaires. Nous, c'est pas parce qu'ils sont réactionnaires, qu'ils sont maudits. On n'est pas idiot, ça, c'est intéressant. Mais il faut distinguer entre la tradition, quand même, à proprement parler, au sens guénonien et évolienne du terme, et les auteurs réactionnaires en tant que tels. Même s'il peut y avoir des passerelles. Donc. Alors, effectivement, notre auditeur a raison de dire qu'il faut effectivement s'intéresser à la spiritualité, donner il faut aussi se mettre d'accord sur le mot spiritualité, mais je pense que j'ai en partie quand même grandement répondu avec la référence que j'ai donnée sur Aristote et l'aristotélicien qui est Marx, à mon avis, entre autres choses. Il n'y a pas que ça, mais enfin, là, il y a quand même quelque chose à creuser de ce côté-là, je pense.
Et disons que, oui, justement, après, dans les auteurs traditionnels et traditionnalistes, on peut aussi compter des gens qui ne sont pas forcément. Mais qui sont proches de ces démarches, justement, d'aspect spirituel. On peut parler de, par exemple, d'Abélio, on peut parler.
Fondamental. On est à côté, là.
Voilà, on est juste à côté.
On est dans le quartier de naissance d'Abélio, pas loin.
Après, on peut aussi parler, mais de plein de choses, par rapport, par exemple, aussi à Mircea Eliade, ou par exemple, à Henri Corbin. Il y a mais ça, c'est une recherche spirituelle qui est aussi le propre. D'un individu qui s'est déjà libéré de la domination idéologique du système, qui s'est déjà libéré de la pesanteur de son époque, et qui va justement reprendre en main sa vie et qui va combattre. Et nous, notre vision des choses, c'est un homme libre, capable de combattre pour sa destinée et pour son destin. Et son destin, c'est aussi bien son destin, disons, immédiat, on peut le dire, mais aussi sa libération spirituelle.
Merci de ces réponses très très complètes et érudites. Alors, je me permets pas de rebondir sur ce qu'a dit l'auditeur véritablement, mais plutôt de creuser un petit peu la question. Je pense que ce sur quoi on vous attendait, c'est-à-dire, c'est la fameuse phrase de Marx qui est sans doute sortie de son contexte peut-être, mais qui existe quand même. Je pense pas que ce soit une fausse citation. C'est la religion est l'opium du peuple. Je crois que c'est un petit peu la citation sur laquelle on vous attendait. Et d'autre part. Il paraît quand même assez incontestable que l'Union soviétique a lutté contre l'Église orthodoxe, a fait déboulonner des statues, a fait fondre des clochers, a détruit certains clochers. Donc, ce sur quoi on vous attendait peut-être, c'est sur la critique qui consiste à dire souvent, qui consiste à renvoyer dos à dos capitalisme et marxisme, que ce soit le marxisme théorique. Qui est souvent mal lu, là on est d'accord, ou très peu lu, et ce qui est censé être l'application du marxisme, c'est-à-dire en gros l'Union soviétique. Donc il y a une critique qui consiste à dire, effectivement, que vous connaissez très probablement cette critique que Karel, par exemple, fait, que Hitler lui-même a faite, dans le contexte d'Hitler, c'était dans une, je peux citer la phrase de mémoire, le libéralisme de Rothschild et le capitalisme de Marx sont les deux facettes de la médaille juive. Donc là, c'était très clair. C'était sur les financements du parti bolchevique. Et d'autre part, par exemple, Karel qui disait le capitaliste est le frère aîné du bolchevique. Donc, on vous attendait peut-être un petit peu plus là-dessus, c'est-à-dire, est-ce que clairement Marx est anti-chrétien, anti-religieux, et vous qui semblez citer Marx avec en général une sorte de vénération, pas de vénération, le mot est excessif, enfin avec un respect du moins qu'on lui doit, parce que sa critique est quand même fructueuse, très, très intéressante. Voilà, alors en gros, le marxisme à la fois théorique et historique est-il anti-religieux? C'est ce qu'on, à peu près, je pense, que ce qu'on vous demande. Si vous pouvez de nouveau un petit peu repréciser rapidement, merci.
Oui, alors, là, il y a toujours évidemment. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on parle du marxisme, il y a tellement de courants, etc. Bon. Marx, alors la phrase « la religion est l'opium du peuple », il faut citer tout le passage, c'est-à-dire Marx écrit 1843, c'est ça. Il dit que c'est l'opium du peuple, mais il dit également dans le même passage, c'est le soupir de la bête opprimée, si je me souviens bien. Il dit c'est le cœur d'un monde sans cœur. Ça change tout. Ça change tout. C'est-à-dire que la religion a un contenu, même si c'est le cœur d'un monde sans cœur. Hein, si Marx était un laïcard, il n'aurait pas écrit ça. Le cœur d'un monde sans cœur. Donc il y a un contenu humain dans la religion. Alors par contre, c'est vrai que ça n'a pas été probablement sa plus grande préoccupation, c'est évident, par la suite. Parce que là, ce passage que je cite, donc, c'est 1843. Et c'est vrai qu'il a eu probablement d'autres choses à penser que la religion, qu'on est aussi, il faut tenir compte aussi du contexte, le 19e siècle, avec un peu cette idée de la science triomphante, et puis la science qui vient effacer un peu la superstition, on a vu ça avec le siècle des Lumières. Alors donc il y a tout ce contexte-là. Mais en fait, c'est le cœur d'un monde sans cœur et un contenu humain. Dans cette période de sa vie, il est encore quand même assez proche de la critique que faisait Feuerbach du christianisme dans l'essence du christianisme. Hein, c'est-à-dire que, en fait, grosso modo, le matérialisme de Feuerbach, par ailleurs, qui comporte certains aspects sympathiques, mais dont Marx, je le rappelais tout à l'heure, disait quand même que ça restait un matérialisme contemplatif, c'est-à-dire passif, n'est-ce pas ? L'idée de Feuerbach, c'était que l'homme projetait dans le ciel, dans le monde des idées, et il avait aussi à l'esprit Feuerbach la critique du système hegelien, bon, il projetait ses qualités humaines comme ça, de manière un peu fantasmatique et transcendante dans le ciel, et que l'homme se perdait dans l'aliénation comme ça religieuse. Mais Marx fait quand même une critique de cette vision en expliquant qu'il faut comprendre quelles sont les raisons qui font que l'homme projette dans le ciel des idées de manière transcendante son humanité. Quelle est la scission réelle dans le monde réel de la vie sociale qui fait que l'homme va chercher dans la religion, alors malgré tout, un contenu humain, puisque c'est le cœur d'un monde sans cœur. Et là, c'est vrai que Marx n'a pas travaillé sur le concept de religiosité, qui n'a pas vraiment défini ce que pouvait être la nature de la religiosité, parce que probablement il avait d'autres chats à fouetter. Voilà. Donc, par ailleurs aussi, ce qui est très intéressant quand même, j'en remets au texte, c'est quand même aussi l'idée de la mystification que produit le capital dans son mouvement, le fétichisme de la marchandise, qui a un contenu absolument religieux. Hein, donc ça, on peut le lire dans le Capital, l'idée de le livre du Capital. Voilà. Après, il y a une vision, dans le fond, qui est un peu quand même, peut-être plus reprise par Engels, une vision qui pourrait être une espèce un peu peut-être de régression vers certaines tendances du positivisme. Je reste prudent chez Engels. Là, il faut lire quand même les travaux de Prévé sur la question et un peu l'ossification de la pensée quand même du marxisme dans la Seconde Internationale et dans les parties de la social-démocratie à ce moment-là, qui a une vision de Marx qui est quand même empreinte de positivisme. Et Marx n'était pas positiviste, bien entendu, puisque c'était quand même moqué de la pensée positiviste et notamment de la religion positiviste proposée par Auguste Comte avec son culte de l'humanité qui était une vision sans doute assez abstraite du lien social. Par ailleurs, il y a quand même des aspects intéressants dans la critique de l'idéologie des droits de l'homme, par ailleurs, quand même sur Auguste Comte. Mais en fait, c'est une vision, bon, le marxisme s'est un peu ossifié dans une tendance mécaniste et une tendance positiviste dans la seconde moitié du XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Hein. Ça, c'est le premier aspect de la question. Alors, après, bon, la question, l'URSS, tout ça, bon,
Moi, ça me paraît. Alors, c'est peut-être un autre débat. Il faut distinguer quand même de ce que de la pensée de Marx. La vision, quand même. Alors, là, je sais pas. On a rappelé les propos de Hitler. Enfin, des choses un peu délirantes, quoi. Globalement, je pense que certains éléments du parti bolchevique, effectivement, plus ou moins suspects, se sont probablement attaqués vigoureusement à l'église orthodoxe. Par ailleurs, le système, à un moment donné, quand même, avait fait un compromis avec, je pense, l'église orthodoxe, sur le premier point. Alors après, quant à l'histoire, alors, du judéo bolchevisme, des choses comme ça, ça m'apparaît relevé d'un pur fantasme. Oui, il y a eu des allusions dans ce qui a été dit sur le lien entre le capitalisme et le bolchevisme.
Il y a eu un article dans
On a répondu à ces questions, la rébellion, dans un article là sur le complotisme.
Le
communisme. Il y a eu un très bon livre là qui a été écrit, dont on a fait la critique, qui s'appelle. Comment s'appelle
le livre? Justement,
Communisme et complotisme, où l'auteur a quand même très bien. Donner des informations sur les, grosso modo, sur, en fin de compte, ce qui a connu en France à partir des travaux de Coston sur le bolchevisme. Et alors, Coston, apparemment, ne fait que recopier les sources erronées dans les États-Unis et je sais plus quelle officine à l'époque qui a répondu les faux sur la question. Donc ça me paraît, il faut énormément, c'est cela, que les capitalistes, à un moment donné, bon, effectivement, placent leur bille dans un endroit particulier. Enfin bon, ça, Lénine le disait lui-même, mais ils nous vendront la corde qui servira pour les pommes. Hein, donc.
De toute façon, on le voit aujourd'hui aussi avec le jeu des États-Unis, avec certaines révolutions dans le monde arabe. Quoi. On voit que.
Non, puis.
Ils peuvent se tromper.
Oui, vas-y.
Non, mais après, ils peuvent se tromper de cible. Ils peuvent se tromper justement de cheval et mettre en place des personnes qui peuvent tout à fait après les abattre, c'est ce que disait Richard.
Non, puis le parti bolchevique, il a fonctionné jusqu'en 1917 avec ses propres fonds. Bon, c'est bien connu, hein, Staline, il cassait les banques, pour financer. C'est quand même assez connu. Bon, par ailleurs, il y a probablement un jeu un peu fortement opportuniste de Trotsky, mais Trotsky, je le mets à part, moi,
dans l'histoire du bolchevisme.
Dans l'histoire, bien entendu, c'est un rallié de la dernière minute, pas très net, probablement. Le personnage. Hein. Mais Lénine a bien dit que c'était un opportuniste de 1915.
Oui, là, il y aurait beaucoup. On pourrait refaire une émission là-dessus. Mais enfin, bon, disons, si vous avez répondu sur tous les aspects, donc moi, je tiens à préciser que les propos que moi-même j'ai relayés ou cités, je ne prouve pas tous, c'est tout ça. Donc en tout cas, on vous remercie d'avoir participé à cette conférence, tous les deux, Jean Gallier et Louis-Alexandre. Et je vous laisse un mot de conclusion à l'un et l'autre, hein, si vous avez quelque chose à nous dire, peut-être sur les orientations futures du prochain numéro de Rébellion, par exemple.
Disons que on tenait surtout à remercier les auditeurs et aussi l'équipe de nous avoir reçus ce soir, et on vous remercie d'avoir été patient, d'avoir écouté ce qu'on a pu vous dire. Et pour vous dire juste que le prochain numéro va sortir en principe à la fin du mois, et qui traitera surtout comme sujet central de l'idée de communauté, justement, en mettant un peu au point certaines idées par rapport à ce qu'on entend par communauté militante, communauté de vie. Et aussi, on voudrait aussi insister pour que les personnes qui sont aujourd'hui à l'écoute de votre émission, nous redonnent aussi leur avis et qu'ils peuvent nous écrire. Donc, je redonne l'adresse du journal à Rébellion, RSE, BP 62 124 31 202 Toulouse, CEDEX 2. Bah, vous pouvez nous écrire et on sera ravis de vous répondre. Et aussi, n'hésitez pas à soutenir le journal en vous abonnant et aussi en le faisant connaître autour de vous.
Voilà. On vous remercie à tous et voilà. Peut-être un mot de la fin pour Jean Gallier.
Oui, non, mais c'est intéressant, des questions intéressantes. Mais c'est vrai qu'il faudrait passer des heures à reprendre point par point. Des fois, on est obligé un peu de schématiser. C'est dommage, mais en même temps, bon, il y a quand même beaucoup d'interrogations. Je dirais, bon, à tous ceux qui ont posé des questions, qui s'interrogent, allez lire ce que les uns et les autres ont écrit ou écrivent. Parce que j'ai l'impression, souvent, quand on entend des questions, mais pas spécialement ce soir, hein, que on croit avoir compris ce qu'on a lu ou alors on a entendu dire telle ou telle chose. Il faut aller vérifier à la source, il faut aller lire les auteurs. Donc tous ces gens dont nous avons parlé, c'était très riche tout au long de la soirée. Bon, il faut du temps, il faut prendre le temps, il faut décider de s'y mettre, mais allez contrôler, allez lire et ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, et surtout, bon, on a toujours cette pensée critique pour mettre un peu en perspective ce que vous entendez, ce que vous lisez. Voilà, bonne soirée, merci encore.
Voilà, encore une fois, merci à vous deux. Donc, on vous rappelle hein, le blog rebellion.oefor.com et cette conférence du dimanche 12 février est donc terminée. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine à 21h de nouveau pour la réception de Dan Kling. Au revoir, bonne soirée.